Psaume 87, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime, plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie, c'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi.
Alors récemment, je lisais un article de journal qui parlait d'un homme qui avait été abandonné bébé dans une cabine téléphonique. C'est une histoire vraie, il avait été retrouvé, donc, tout bébé, dans cette cabine téléphonique. Recueilli par les services de l'enfance, il avait été adopté ensuite. Mais des années durant, il a vécu sans avoir la moindre idée de son histoire, de ses racines. Il savait simplement cela, qu'on l'avait retrouvé dans une cabine téléphonique. Alors cet homme s'en est plutôt bien sorti, comme on dit. Il a pu faire des études, il a pu fonder une famille. Mais il a dû vivre pendant des années avec cette souffrance de ne pas savoir d'où il venait. Et ce n'est que récemment, suite à des tests ADN, qu'il a pu retrouver sa mère biologique, très âgée et qui, comme on dit, n'avait plus toute sa tête. Elle l'a quand même reconnue, elle a quand même compris de quoi il s'agissait. Le contact entre les deux s'est plutôt bien passé, je vous passe les détails. Mais une petite déception demeure, et l'article concluait avec ça. Elle ne se souvenait pas de l'anniversaire de son fils. Et cette remarque m'a frappé de la part de l'homme en question. J'aurais bien aimé connaître mon anniversaire. Nous ressentons tous le besoin de racines. Et donc, les cas de figure sont différents. Parfois, on le ressent peut-être d'autant plus lorsqu'on vient de deux cultures différentes ou plus, et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui et dans ce pays. Ce besoin est toujours là. Et le psaume que Noël nous a lu nous parle de racines. Alors c'est vrai, d'abord il évoque une ville, mais il parle ensuite plus largement de l'identité que Dieu offre aux siens. On va y réfléchir en deux temps. D'abord la ville que Dieu aime, versets 1 à 3, puis ensuite les peuples que Dieu aime, les versets 4 à 7. Dans un premier temps donc, la ville que Dieu aime. Les premières lignes du psaume sont un hommage à la ville de Jérusalem. Sion, c'est pas Sion en Suisse, qui est très jolie également, mais là c'est un nom poétique qui est souvent utilisé dans la Bible pour parler de Jérusalem en référence à la colline sur laquelle elle est perchée. Alors ce psaume est composé par les descendants de Corée, une famille dont la lignée, à l'histoire assez mouvementée, sur laquelle je ne reviens pas ici, remonte au temps de Moïse. Or, les fils de Corée faisaient partie de l'entourage de David à Jérusalem. Et donc, Jérusalem, Sion, c'est leur ville. Et quand on lit ce psaume qu'ils ont composé, on sent bien leur attachement à Jérusalem en lisant ce texte. C'est leur ville. Et nul doute qu'ils en sont fiers. Moi, je vais vous faire une confession intime. J'aime Paris. Il n'y a peut-être que les Parisiens pour aimer Paris. Et Joséphine Baker, peut-être. Puis bon, quand même, c'est la première destination touristique du monde, donc c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que le nombre de fois où on entend dire que quelqu'un n'a qu'une envie, c'est de quitter Paris, surtout aller ailleurs. Ou bien je pense à des personnes de ma parenté, même en Bretagne, qui m'ont dit il n'y a pas très longtemps qu'elles ne venaient en région parisienne que pour l'aéroport, parce qu'elles aiment voyager et aller ailleurs. On dit ouais, c'est bien la seule raison pour laquelle on vient à Paris. Mais quant à moi, et je ne suis sûrement pas le seul ici, j'aime cette ville où je suis né, près de laquelle j'ai grandi, où j'ai fait une partie de mes études, où j'ai rencontré ma femme, et bien sûr, où se trouve notre église. Et c'est vrai que cette ville peut être extraordinairement pénible, parfois. On le sait tous. mais je l'aime parce que ce sont mes racines. Et nul doute que ce sont les sentiments du ou des auteurs de ce psaume 87. Mais au-delà de son propre émerveillement, le psalmiste décrit surtout l'amour de Dieu pour cette ville. Verset 1, « La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. » Autrement dit, que toutes les villes d'Israël. Jérusalem occupe une place importante, même unique dans la Bible. Dès le livre de la Genèse, le mystérieux grand prêtre Melchisédek, en qui le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux spécifiquement, voit une figure anticipatrice de Jésus-Christ. Melchisédek donc est décrit comme le roi de Salem, et on a de bonnes raisons de penser que Salem, c'est en quelque sorte l'ancêtre de Jérusalem. Et puis, le roi David, roi emblématique d'Israël, ancêtre de Jésus, établit son règne à Jérusalem, lui le roi selon le cœur de Dieu. Et puis Salomon, son fils, y construit le temple, lieu symbolique mais ô combien important de la présence de Dieu auprès de son peuple, du peuple avec lequel il a conclu une alliance. Donc Jérusalem est une ville importante et on pourrait même parler de la fin de la Bible. À la fin de l'Apocalypse, il est question de la Jérusalem céleste, capitale en quelque sorte de la nouvelle création. Quelle est la part d'image, quelle est la part de réalité, c'est difficile à dire, on verra bien. Mais en tout cas, Jérusalem transposée dans l'éternité comme symbole de la ville de Dieu. Pourtant, Jérusalem, du temps de David et du temps approximatif de la rédaction de ce psaume, n'avait en elle-même rien de si extraordinaire. Il y avait d'autres cités bien plus impressionnantes dans le Proche-Orient ancien. Et alors, tenez-vous bien, un spécialiste estime qu'il devait y avoir sans doute environ 2000 habitants à Jérusalem à l'époque du roi David. Alors, c'est des chiffres difficiles à établir et discutables, mais en tout cas, c'était dérisoire face aux dimensions qu'on peut connaître aujourd'hui. 2000 habitants, j'imagine que rien que dans la rue de Sèvres, dans sa totalité, il y a sans doute plus que 2000 habitants. Alors, c'est vrai que les échelles à l'époque étaient tout autres. Cela dit, là encore, certains spécialistes pensent qu'à son apogée, la ville de Babylone comptait peut-être jusqu'à 100 000 habitants. Donc même à l'époque, même à l'échelle de l'époque, Jérusalem n'était pas une mégapole, loin s'en faut. Mais Dieu n'est pas du genre proportionnel. Et une fois de plus, il surprend. Son amour ne rentre pas dans nos catégories et explose toutes nos échelles de valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit du début à la fin de la Bible. On a le sentiment, d'ailleurs, en lisant la Bible, qu'il trouve, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est même affirmé souvent, que Dieu trouve comme un plaisir tout particulier à aimer ce qui est petit et humble, à élever ce qui est abaissé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. S'il paraît dérisoire que Dieu aime une petite bourgade du Proche-Orient, à combien plus forte raison il est stupéfiant qu'il nous aime, nous, vous et moi, au point de nous inviter à le connaître personnellement, au point de venir dans notre condition humaine, comme on l'a chanté tout à l'heure, de se mettre à notre service, de subir le rejet et l'humiliation, et dans la personne de Jésus-Christ, de mourir crucifié. Voilà jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour des personnes à l'existence pourtant si légère et inconséquente que la nôtre. Et c'est ce même Dieu qui a choisi d'aimer Jérusalem, non pas en quelque raison d'un quelconque prestige de cette ville, mais parce qu'il l'a choisie pour se faire connaître, pour en faire un élément clé de ses projets pour Israël. Et de ses projets, on va le voir, pour le monde entier. Et le psaume continue, verset 3, « On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. » Le choix de Dieu, son amour, suffisent à rendre glorieux la plus modeste, glorieuse la plus modeste des réalités humaines. Quand on est l'objet de l'amour de Dieu, on voit mal ce qui pourrait compter d'autre. La renommée à l'échelle humaine, le prestige, le pouvoir, l'argent, quelle importance face à l'amour de l'Éternel. Et c'est vrai pour nous qui, par ce mystère insondable, sommes devenus, pour reprendre une expression chère à notre ancien pasteur Paul Appéré, les cibles de l'amour de Dieu. Nous sommes les cibles de son amour en Jésus-Christ, j'y reviendrai. Pourquoi chercher une autre approbation quand on a celle-là? Mais pour revenir à notre psaume, on peut avoir le sentiment, à première lecture, qu'on a simplement ici une sorte de psaume patriotique, un psaume qui a l'honneur de Jérusalem, J'ai essayé de penser à un équivalent pour Paris, mais j'en ai pas trouvé. Aux Champs-Élysées, ça marche pas vraiment. J'en ai pas trouvé. Mais voilà, une sorte de psaume patriotique, tout simplement. Et les mauvaises langues diraient peut-être, en lisant les versets 1 à 3, que c'est une sorte de psaume de propagande, peut-être un petit poème pour flatter le roi David, roi d'un petit royaume, siégeant dans une petite capitale. Mais la suite du psaume va nous emmener dans une toute autre direction. Et sans nier qu'il y ait dans ce texte une fierté vis-à-vis de Jérusalem, c'est clair. Mais il y a beaucoup plus que cela. Et on va voir que ce psaume nous concerne directement, même pour la plupart d'entre nous qui, sans doute, n'avons jamais mis les pieds à Jérusalem. Et on arrive à notre second point, les peuples que Dieu aime. À la fin du verset 3, il y a une de ces pauses, si c'est bien cela que veut dire le terme hébreu, un peu mystérieux. C'est là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc on traduit par pause, on suppose que ça veut dire quelque chose comme ça. Et cette pause va marquer un tournant complètement inattendu dans ce petit psaume. Après avoir déclaré l'amour de Dieu pour Jérusalem, le psalmiste va brusquement parler d'autres endroits, d'autres peuples, d'autres pays, et dire combien tous les peuples comptent à ses yeux. Et le rapport qu'il va faire, et ultimement c'est le rapport que Dieu fait entre sa ville et les autres peuples, est bouleversant. Dieu va mentionner des pays étrangers, autres que celui qu'il a spécialement choisi, Israël. Alors souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque des pays étrangers sont mentionnés, c'est pour dire que Dieu s'oppose à eux dans sa défense de son peuple. C'est vrai dans plusieurs situations. Mais voyons ce qui est dit ici, verset 4. « Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. » Et ce verset est d'autant plus saisissant que ce sont notamment des ennemis d'Israël correspondant à différentes époques qui sont citées ici. L'Égypte, ennemi ancestral, se souvient de la captivité en Égypte et l'exode par lequel les Israélites ont été libérés de l'Égypte. Babylone, qui sera bientôt le pays de l'occupation et de la captivité, qui était déjà une terre hostile. Le pays des Philistins, si on regarde un peu l'histoire de David, on voit qu'il est tout le temps opposé aux Philistins. Or, le Seigneur affirme être connu de ses peuples. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une affirmation au présent, au moment du psaume, ou est-ce que c'est projection pour l'avenir? Et la situation dans le temps n'est pas toujours facile à établir dans la langue hébraïque, hein, ça sous réserve de mon ami Ibrahim, là, qui s'y connaît bien mieux que moi. Mais il faut sans doute comprendre plutôt, comme dans certaines traductions, je mentionnerai l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Je mentionnerai l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Et d'autres textes de l'Ancien Testament, nous y reviendrons, parlent d'une perspective future. Un jour viendra où Dieu sera connu en Égypte, à Babylone, en Philistie, à Tyr, en Éthiopie. Mais la fin du verset va plus loin encore. C'est là qu'ils sont nés. À première vue, c'est un peu énigmatique. C'est où, ceux-là? Où est-ce qu'ils sont nés? Le psalmiste serait-il simplement en train de dire que les Égyptiens sont nés en Égypte et les Babyloniens sont nés à Babylone? On voit mal l'intérêt d'affirmer une telle évidence. La suite du texte nous révèle l'intention du psalmiste et de Dieu qui a inspiré ce texte. Verset 5, de Sion, il est dit « Tous y sont nés » et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. Tous, c'est-à-dire tous les peuples qui viennent d'être mentionnés. Et si on avait encore un petit doute à ce sujet, le verset 6 y met fin. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. À Sion. Je m'apprête à faire les démarches pour la première carte d'identité de notre fils Ruben. Et on doit fournir, comme pour plein d'autres choses en France, un acte de naissance. Alors une chose un peu étonnante avec cette demande d'un acte de naissance, c'est qu'à chaque fois on demande que l'acte de naissance soit de moins de 3 mois, daté de moins de 3 mois. Y compris quand c'est pour un adulte, hein, il faut demander dans les 3 mois un acte de naissance. Alors, un jour, quelqu'un m'expliquera peut-être la logique, parce que normalement, les informations concernant notre naissance ne changent pas. Alors, à la suite du culte du matin, il y a une dame qui travaillait pour une mairie qui est venue me l'expliquer, mais je n'ai toujours pas compris. Mais il est frappant de constater l'importance, en tout cas, de ce document, l'acte de naissance. Et dans certains pays défavorisés, c'est souvent la seule preuve d'identité. Un petit document qui dit où et quand on est né. C'est là que la vie commence. Et c'est de là que vient notre identité. On peut toujours essayer de se réinventer autant qu'on veut. Après, c'est un peu dans l'air du temps. on décide un peu qui on veut être. Mais cette identité-là, l'identité de notre naissance, ben, elle est intangible. C'est nous. C'est moi. Bien dans le texte poignant du psaume 87, Dieu affirme qu'il considère tous ses bien-aimés, tous les hommes et les femmes qui parmi les peuples le connaissent comme étant nés à Jérusalem, comme étant en quelque sorte citoyen d'honneur, citoyen d'adoption de Sion. Et c'est Dieu, le Dieu qui a autorité sur toute chose et qui détermine toujours ce qui est vrai, hein, ce que Dieu décide, c'est vrai. Eh bien, c'est lui qui rédige l'acte de naissance. Verset 4, verset 6, c'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils sont nés. Il est même question d'inscrire les peuples. Dieu inscrit les peuples. Les Égyptiens, nés à Sion. Les Babyloniens, nés à Sion. Les Philistins, nés à Sion. Les Parisiens, nés à Sion. Alors c'est vrai que ce psaume a une perspective collective, parlant de peuples entiers. Mais il est évident qu'en parlant de naissance, il concerne plus précisément les gens de ces pays-là. Précisément ceux qui, parmi ces peuples, connaissent et adorent Dieu. Et on pourrait dire ça de bien des gens ici. Génova, né à Sion. Yolanda, né à Sion. Et je ne vais pas faire tout le monde parce que sinon ça pourrait être un petit peu long. Dieu dit à propos de tous ceux qui, par la foi, ont saisi cette relation qu'il offre. Elle vient de chez moi. Il fait partie de mon peuple. Et on comprend que cet amour que Dieu a choisi d'accorder à sa ville préférée, eh bien il l'accorde à tous ceux et celles qui le connaissent. Il les aime comme s'ils étaient citoyens de la ville qu'il aime, citoyens de Sion. C'est une affirmation bouleversante, je trouve. Elle n'est pas unique dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, ne serait-ce que dans le psaume qui précède, le psaume 86, qui est sur la même page, on lit au verset 9, il sera à l'écran aussi, « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. » Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Ou encore chez le prophète Ésaïe, au chapitre 19, on lit au verset 24 et 25, et c'est un des textes que je trouve les plus étonnants de l'Ancien Testament, les plus frappants. « Ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction pour toute la terre. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » Béni soit l'Égypte, mon peuple. Alors si nous, ça nous étonne de lire ça dans l'Ancien Testament, imaginez la réaction d'un Israélite de l'époque. Dieu qui dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Au temps où ces textes ont été rédigés, il n'y avait que quelques modestes indices de cette réalité. Ici ou là, une personne d'origine païenne qui plaçait sa confiance dans le Dieu d'Israël, comme Ruth par exemple, ou Naaman, l'officier syrien, et rejoignait par la foi le peuple choisi. Mais la venue de Jésus-Christ a manifesté au grand jour ce virage dans les projets de Dieu, par lequel il s'adresse indifféremment à des gens de tous les peuples, pour les appeler à le connaître. Et Jésus dira après sa résurrection, on connaît bien ce texte, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Matthieu 28, 19. Et là, on comprend que ce psaume dépasse infiniment la réalité géographique de Jérusalem. Il est question d'identité, et de l'identité la plus essentielle qui soit, connaître Dieu et être connu de lui. Voilà la citoyenneté. Voilà l'appartenance qui compte ultimement. Et l'apôtre Paul l'a parfaitement compris. Il écrit des siècles plus tard dans sa lettre aux Éphésiens, deuxième partie du chapitre 2 qui sera étudiée ce jeudi soir. Il s'adresse ici à propos des chrétiens d'origine non juive, à des chrétiens d'origine non juive, et il leur écrit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Ce n'est plus un titre de séjour que vous avez. Mais maintenant, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Je ne serais pas surpris que l'apôtre Paul avait précisément le psaume 87 à l'esprit en écrivant ces lignes. Et j'espère que ce soir, chacun d'entre nous peut trouver une profonde paix dans l'assurance d'appartenir à Dieu, de trouver ses racines en lui. Notre lieu de naissance sur la terre n'est pas sans intérêt. pouvons être fiers et heureux d'avoir les racines qui sont les nôtres, quelles qu'elles soient. Mais nos véritables racines, celles qui vont plus loin et plus profond que notre nationalité, notre culture, notre langue, eh bien c'est en lui, c'est dans cette citoyenneté-là que nous allons les trouver, nos véritables racines. À nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour trouver en lui le pardon, la réconciliation, une vie nouvelle, eh bien nous savons que nous avons reçu de Dieu un nouvel acte de naissance, ou je devrais dire un acte de nouvelle naissance. Néation, citoyen du peuple de Dieu, héritier des promesses faites à Israël, ouverte à l'ensemble des nations. Et le verset 7 qui vient clore ce psaume nous parle de façon imagée d'une joie et d'une abondance partagée dans cette nouvelle identité. Ceux qui chantent et ceux qui dansent, alors à la RDS le chant ça nous connaît, la danse ça viendra peut-être, on verra. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Il y a là, semble-t-il, l'image de plusieurs sources qui partent de Jérusalem pour abreuver, pour combler tous ceux qui ont soif de Dieu. Et on retrouve à d'autres reprises ce type d'image dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ézéchiel nous parle au chapitre 47 de l'eau vive qui jaillit du temple à Jérusalem pour abreuver tout le pays. Eh bien, la fin du psaume nous décrit des gens qui se réjouissent ensemble de la présence de Dieu, qui trouvent dans leur appartenance commune à Dieu les sources inépuisables de la joie. Et j'espère que c'est notre cas ce soir. Et là, comment ne pas penser à cette parole de Jésus, Jean 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce n'est pas pour rien, je pense, que Jésus dit ça juste après avoir expliqué que le jour vient où c'est plus ici ou là, à cet endroit précis qu'on adore Dieu, pas dans le temple ou sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. Au-delà de nos circonstances actuelles, favorables ou difficiles, au-delà de nos origines, au-delà de nos affinités, au-delà de notre culture, et il y a une grande diversité, rien que ce soir parmi nous, de culture, d'affinités, d'origine. Ce qui fait que l'Église, le peuple des disciples de Jésus-Christ, est unique, c'est que notre unité ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de ce que nous pouvons nous-mêmes apporter. Ce qui fait notre unité, c'est que Dieu a décidé de nous aimer, du même amour, de nous déclarer ses enfants et de nous rassembler dans ce peuple nouveau. Alors, je voudrais terminer par une exhortation pour deux situations différentes que peuvent connaître les uns ou les autres. Il y a ceux parmi nous qui, du point de vue du regard des gens, on va dire, du regard de notre société, ont peut-être des raisons d'être confiants. Alors, je ne sais pas, peut-être un physique agréable, ou en tout cas, c'est ce que vous estimez, une personnalité avenante, un métier bien reconnu, des revenus confortables, un statut social assuré. Et tant mieux si Dieu a accordé ces circonstances favorables. Mais ce serait une profonde erreur de penser, comme nous le faisons si naturellement, que ce sont ces choses-là qui donnent de la valeur, que ce sont ces choses-là qui peuvent donner confiance dans la vie. Alors c'est ce que nous crie notre société chaque jour. Parfois, je dis crie, parfois c'est très ouvertement, parfois c'est un message plutôt subtil, que c'est ces circonstances qui font notre valeur. Mais à cela, le Seigneur répond, citoyen de Sion, co-héritier de Jésus-Christ, co-héritier du royaume de Dieu, voilà ce qui a de la valeur, voilà ce qui doit nous mobiliser au jour le jour, voilà ce qui peut nous donner confiance en l'avenir, l'avenir qui compte vraiment. Maintenant, d'autres, peut-être, ont des circonstances, et peut-être juste, peut-être actuellement, peut-être pas toujours, mais actuellement, circonstances qui, aux yeux de la société, sont moins favorables, qui se sentent isolés, qui peut-être ont du mal à finir le mois sur le plan financier, qui peut-être ne sont pas en bonne santé, qui ont peut-être une personnalité plus difficile, forte timidité, ou qui ont l'impression de ne jamais être remarqués. Si vous vous reconnaissez d'une façon ou d'une autre dans ce portrait, réjouissez-vous. Parce que Dieu a rédigé votre acte de naissance. Néation, membre de mon peuple, mon enfant adopté. Voilà ce qui compte aujourd'hui, et voilà ce qui comptera pour toujours. Amen.